Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à tous et bienvenue dans le mag du samedi sur Cocktail FM, consacré aujourd'hui au lobby des chiffonniers. Emmaüs 88 a donc fêté ses 25 ans d'existence le week-end du 1er mai avec un déballage géant par des groupes Emmaüs venus de 6 pays au centre des congrès d'Épinal. Un anniversaire fêté en présence des présidents d'Emmaüs France et Europe. L'occasion pour la rédaction de Cocktail FM de faire le point sur l'action menée par ces militants de la solidarité active qui n'hésitent pas à monter au créneau politique, notamment européen, pour faire entendre les voix des sans-voix.
Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée. Il faut que dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise. C'est simplement « Toi qui souffres, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ».
Abbé Pierre, un certain hiver 1954.
Nous en avons assez de voir la majorité des crédits, la plus grande part des richesses de nos nations consacré à bâtir des immeubles de luxe.
Un autre cri d'alarme du même abbé Pierre, quelques 50 années plus tard. Depuis, l'abbé Pierre s'est éteint, mais l'idée maîtresse du système Emmaüs reste faire pression sur le pouvoir en place pour plaider la cause des plus pauvres. Et quelques mois après le 60e anniversaire d'Emmaüs France, on a fêté le 1er mai, jour de la fête des travailleurs, le 25e anniversaire d'Emmaüs dans les Vosges. L'occasion pour les responsables locaux, nationaux, européens et internationaux de réaffirmer leur credo, agir pour ne pas subir, et pour cela un moyen efficace, le lobbying. Une action ouvertement et résolument politique pour cette association typiquement apolitique.
Je m'appelle Barthélémy.
Vous êtes bénévole, c'est quel...
Ah oui, je suis bénévole depuis 5 ans, depuis les 20 ans. Je ne savais même pas qu'Emmaüs existait. Et j'ai une sœur qui venait à Emmaüs, puis elle me dit, ils cherchent des bénévoles. Comme j'étais à la retraite, j'avais plus grand chose à faire à la maison, je me suis dit, je vais aller voir. Bon, 2 jours par semaine, je me suis dit, je peux. Mais maintenant, c'est du lundi au samedi, tous les matins. Mais l'avantage, ce qui est bien ici, c'est qu'on vient de 8h à midi, et l'après-midi est à midi.
Et Barthélémy a son idée d'Emmaüs.
Ben, c'est qu'avec rien, on arrive à faire quelque chose déjà. Si une assistante sociale, elle vient et puis qu'elle a besoin, nous trouver le mieux et leur donner. Et après, tout ce qu'ils n'ont pas besoin, on le vend.
Vanessa Brocker, le système Emmaüs, ça marche comment ici?
Donc en fait, l'objet de l'association, c'est de collecter du matériel chez des particuliers qui nous en font don, de le remettre en état, puis de le vendre. Et l'ensemble du bénéfice de ces ventes permet de mener des actions de solidarité très locales, voire régionales et internationales. Donc on travaille en partenariat avec tous les partenaires sociaux du secteur et même au-delà. Donc on soutient très ponctuellement des familles qui rencontrent des difficultés précises en matière de paiement de factures, de questions sur le surendettement. C'est très concret en fait et ça parle à tous.
Gérard Olivier, quelle est votre fonction ici à Ambervilliers?
Je suis le responsable de l'ensemble de l'activité, à la fois du travail des salariés et puis aussi de la coordination avec l'équipe des bénévoles.
Et dans les Vosges, les Amis d'Emmaüs ne sont pas une communauté, petite particularité.
C'est une communauté, on pourrait dire, de cœur, oui, de vie, hein, dans notre travail. Mais effectivement, c'est un comité d'amis. Donc le choix qui a été fait il y a 25 ans, justement, par les pionniers, ceux qui ont démarré, c'était de... Parce qu'à l'époque, ils s'étaient aperçus qu'il y avait déjà un peu de pauvreté quoi, sur le secteur. Et donc de faire vivre des salariés du coin qui sont en insertion professionnelle. Donc ces personnes repartent chez eux le soir, et on fonctionne ici exactement comme une entreprise avec des heures d'ouverture classiques, 8h midi, 13h30, 17h30.
La paupérisation de la société française dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce que vous la ressentez dans le sens, est-ce qu'il y a plus de demandes d'aide qui vous sont adressées?
La paupérisation, on la sent bien du magasin, enfin du lieu de vente, par les personnes qui viennent acheter. On s'aperçoit que de fait, il y a des demandes de jeunes gens qui viennent chercher chez nous du mobilier pour s'installer et qui nous disent ne pas avoir d'argent. Après, on le vérifie aussi par le nombre de demandes des tutelles, hein, donc les tutelles qui nous adressent des personnes aussi, qui ont très peu de revenus, et puis les travailleurs sociaux aussi, qui nous font aussi passer des demandes pour des bénéficiaires des minima sociaux. Donc de fait, quand on ajoute tout ce petit monde, ça commence à faire du monde, oui.
Des Français ont faim. Bravo pour n'importe quelle initiative honnête qui diminuera cette souffrance.
Épinal, Palais des Congrès, 1er mai 2010.
Je suis Christophe Deltombe et je suis président d'Emmaüs France.
Je suis Brigitte Marie et je travaille au siège d'Emmaüs International depuis 77.
Un grand moment puisque c'est les 25 ans d'Emmaüs Vosges, mais Emmaüs existe depuis bien plus longtemps.
Emmaüs, c'est 1949, ça veut dire que ça va faire 61 ans cette année. On a fêté les 60 ans le 30 octobre dernier. 60 ans, ça peut pour certains être l'âge de la retraite, mais pour nous, c'est l'âge de la jeunesse. C'est un mouvement extrêmement dynamique, c'est un mouvement qui est sans arrêt en train de créer, d'innover.
C'est un mouvement aussi qui s'est créé sur un constat de misère dans l'immédiate après-guerre, de gros problèmes sociaux. Aujourd'hui, quelle est la raison d'être du mouvement Emmaüs ?
On pourrait effectivement s'interroger sur la raison pour laquelle Emmaüs existe encore, parce qu'après tout, on aurait pu espérer en 49, en 50, en 54, etc., que la misère disparaisse. Malheureusement, elle est toujours là. On a en France 8 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. On a aujourd'hui 3,5 millions de personnes qui sont dans des situations de logement extrêmement précaires et difficiles. On a de plus en plus de jeunes qui sont exclus du système scolaire. 150 000 jeunes sont exclus du système scolaire tous les ans, c'est considérable. Et donc on a comme ça un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent malheureusement un peu pessimistes sur l'évolution de la société française en tout cas, mais c'est la même chose malheureusement dans les pays européens et puis dans d'autres pays encore. Malheureusement, Emmaüs doit continuer à exister pour répondre à ces exclusions et à cette grande pauvreté.
Alors quel constat à l'échelle européenne ? Question posée à Julio de la Granja, président d'Emmaüs Europe.
Aujourd'hui, le constat au niveau européen, c'est un peu un désastre, une calamité, parce que, comme dit mon collègue, non seulement la pauvreté augmente, elle augmente de plus en plus, mais aujourd'hui même le fait d'avoir un travail, ça ne suffit pas pour ne pas tomber dans la pauvreté. Donc dans les années 60-70, on avait pensé qu'une fois qu'on aurait les moyens, on pourrait en finir avec la pauvreté. Aujourd'hui, le constat qui est désespérant pour nous, c'est que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce que ce qui est difficile, c'est de partager. Et de partager, c'est partager le travail et partager les revenus du travail. Ça, c'est vraiment difficile. Non seulement par rapport aux personnes qui habitent dans les pays, mais aussi par rapport à la responsabilité morale que nous avons en tant qu'Européens par rapport aux autres continents. Donc, puisque, comme vous le savez bien, il y a beaucoup de lois qui sont faites au niveau de l'Union, au niveau de l'Europe aujourd'hui, qui ont une influence non seulement sur la vie des personnes qui habitent en Europe, mais sur la vie des personnes qui habitent aussi dans les autres continents. Et là, c'est un partage et quelque chose qui va dans le sens de Maïus, de partager, de vivre ensemble, qui est difficile aujourd'hui en Europe, mais qui est vraiment une source de futur et une question très importante au niveau de l'avenir de l'Europe.
Voilà qui m'emmène direct plus loin que les frontières de l'Union européenne, à l'international. Alors ben justement, quelle est la raison d'être d'Emmaüs International ?
Mais je dirais qu'elle est la même que celle d'Emmaüs France et d'Emmaüs Europe et de ses membres. Je crois que c'est important de comprendre, c'est que les tout premiers groupes d'Emmaüs hors de France, ils remontent aussi à l'année 1949, par exemple en Belgique, ou au tout début des années 50, mais avant le fameux appel de l'abbé Pierre de 54, par exemple en Argentine, au Canada. Donc ils ne connaissaient pas encore l'existence d'Emmaüs en France, ni de l'abbé Pierre, mais il y avait déjà eu des créations totalement autochtones, spontanées, mais qui étaient vraiment sur la même longueur d'onde. Et quand l'abbé Pierre est devenu célèbre, non seulement en France, mais mondialement à partir de février 54, ils en ont eu connaissance, ils ont pris contact et ils ont rejoint le mouvement. Donc on a un certain nombre de membres d'Emmaüs International qui ont fêté leurs 50 ans au Chili, en Uruguay, et d'autres qui ont 40 ans, 30 ans et plus. Donc il y a une implantation très très ancienne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'abbé Pierre ou Emmaüs de France qui a pris son bâton de pèlerin et regardé une carte du monde et dire « Quels sont les pays où on n'a pas notre drapeau d'Emmaüs et allons le planter ?» Ça n'a jamais fonctionné comme ça.
S'arrêter si l'on nageait. sans respirer. Auront de l'air cet été. Tout le monde cherche à s'échapper.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Aujourd'hui, on en est à combien de compagnons de par le monde ?
Alors, de compagnons de par le monde, très honnêtement, on n'a pas de statistiques, mais s'il y a déjà 4000 compagnons dans les communautés en France, plus peut-être encore un ou deux milliers de personnes actives, à la fois dans ce qu'on appelle les comités d'amis et dans les entreprises d'insertion.
Brigitte Marie, représentante d'Emmaüs International.
À travers le monde, c'est certainement beaucoup plus modeste, mais je pense qu'il y a probablement encore un ou deux milliers de plus. À Emmaüs International, on parle plus de nombre de groupes, c'est-à-dire d'associations locales. On en a au jour d'aujourd'hui 310 et quelques dans 36 pays du monde et on vient d'accueillir un membre dans un nouveau pays qui est l'Ukraine. Donc le mouvement aussi s'élargit de par son implantation géographique. Dans les dernières années, il y a eu l'arrivée du Brésil, de nouveaux pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, etc. Donc on n'est pas présent dans tous les États membres des Nations Unies, loin s'en faut, mais tout de même 36 pays dans 4 continents. Avec une importance assez forte en Amérique latine, une présence très ancienne. Voilà.
Monsieur Delton, on est très très loin des premières communautés de chiffonniers créées par l'abbé Pierre.
On est très loin et on est très proche. On est très loin parce que le temps s'est écoulé, parce que les communautés se sont multipliées. On est très proche parce qu'on est resté complètement dans l'intuition d'origine, qui est l'intuition suivante, viens m'aider à en aider d'autres en difficulté.
Christophe Delton, président d'Emmaüs France.
Ce qui est très important, et là je rejoins tout à fait ce que disait à l'instant Brigitte Marie, nous ne sommes pas dans une logique où on vient apporter la bonne parole et la bonne nouvelle et donner de la générosité à d'autres qui se trouveraient dans d'autres pays, jamais. Jamais. On est là simplement pour s'aider à aider, mais uniquement à partir de choses qui existent partout et qui vont se développer, se mettre en place. Et c'est ainsi que des solidarités se mettent en place au niveau international, que des groupes aident d'autres groupes. Mais en aucune manière, on ne vient en quelque sorte avoir une position un peu, je dirais, pseudo-coloniale ou je ne sais quoi. C'est jamais dans cet esprit. C'est toujours à partir de ce qui existe que l'on peut apporter une aide et finalement, par le mécanisme de la solidarité, devenir de plus en plus fort et être capable d'aider les uns et les autres à se redresser et à retrouver un peu de dignité dans le travail, dans l'activité que l'on mène. Vous savez que tous les groupes ont tous un budget de solidarité. C'est-à-dire la moindre communauté française qui accueille des compagnons, c'est-à-dire des gens pauvres, des gens en difficulté, des gens en grande fragilité, eh bien, ces groupes-là qu'on appelle des communautés vont toujours dégager une partie de leurs recettes en solidarité, et notamment en solidarité internationale, parce que la dimension internationale dans le mouvement, elle est essentielle. Essentielle. Elle a toujours été fondamentale. C'est quelque chose qu'on n'a pas évacué et qui reste très forte. Et même quand un groupe est en difficulté financièrement, il n'oublie pas ses solidarités. J'étais, moi, hier, par exemple, en Bretagne, où on a inauguré des structures d'insertion qui ont été créées par une quinzaine de communautés de la région Ouest. Ces structures d'insertion, en 6 mois, elles ont créé 80 emplois.
Je suis Joël Blary, le président d'Emmaüs Vosges depuis une dizaine d'années. Nous avons émis l'idée à Emmaüs Europe de faire une action d'aide européenne. Et puis, chez Chaud, qui a besoin d'un bâtiment de 300-400 000 euros pour pouvoir faire un accueil complet de compagnons, mais aussi un accueil de solidarité des familles en difficulté dans leur ville. Julio nous a donc proposé cette action et nous en avons référé à Emmaüs France pour voir si nous étions bien dans le même volontariat d'aider en profitant de notre anniversaire. Parce que l'idée quand même de base derrière, c'est notre anniversaire. Nous avons 25 ans, nous voulons une fête, la transmettre cette fête au public qui viendra nombreux demain et qui va pouvoir avoir matière à acheter tous des produits venant des différentes communautés des 7 pays concernés, ce qui est une grande première dans l'Est.
D'abord, je dois dire qu'Emmaüs Europe, c'est des 150 groupes dans 16 pays différents de l'Europe.
Julio de la Genja, président d'Emmaüs Europe.
Nous sommes représentés non seulement au niveau de l'Union Européenne, mais aussi des pays qui ne sont pas encore à l'Union, comme c'est le cas de la Bosnie et l'Ukraine. Donc, notamment en Pologne, nous avons 4 communautés. Donc il y a des communautés qui ont déjà leur maison, qui ont commencé leur travail il y a très longtemps, mais il y a surtout deux communautés qui sont très récentes, je parle de 4-5 ans, et donc la communauté de Chechov en question. Donc en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire ce salon ici à Épinal, c'est plutôt une proposition qui vient de Lavaz, parce qu'à Emmaüs on travaille toujours à partir de Lavaz, donc c'est le groupe ici de Vosges qui nous a fait la suggestion d'organiser une rencontre au niveau européen pour ce salon, en profitant aussi de cette fête de 25 ans. C'est important parce que Emmaüs c'est la provocation, donc la provocation c'est faire un geste, faire quelque chose, tirer l'attention pour que l'action puisse continuer pour après. Donc bien sûr il y aura un certain bénéfice qui va être dégagé demain ici de cette salon vente, mais après, dont le relais va être pris par les groupes Emmaüs d'Europe, par tous les groupes dans n'importe quel pays, qui vont continuer à aider cette communauté jusqu'au moment où on trouvera les fonds nécessaires pour que cette maison communautaire en Pologne puisse être une réalité.
C'est vrai que nous sommes dans la provocation, c'est une provocation citoyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un peu la frilosité de nos représentants au niveau de l'Europe, on a peut-être besoin de les bousculer un peu. Eh bien, si ça pouvait donner un tout petit peu cette idée-là, tant mieux. Bousculer, c'est vraiment une nécessité, on a besoin de ça. On a besoin de montrer que la solidarité, c'est quelque chose, c'est un moteur, un vrai moteur.
Cette provocation, en d'autres termes, cette visibilité aussi que vous donnez à l'échelle européenne, je crois, avait été également actée lors d'une grande assemblée en 2009 au niveau européen.
La dernière assemblée régionale européenne a eu lieu au mois d'octobre, justement à Bruxelles. Surtout, les thèmes que le groupe nous demande, c'est surtout de travailler sur la question de l'immigration, qui est une question aujourd'hui fondamentale pour l'Europe et que malheureusement, nos représentants au niveau national et international prennent d'une façon un peu difficile. C'est la question des personnes qui sont dans la rue, des sans-abrisme, qui est aussi une autre question importante au niveau de l'Europe, puisqu'on est quand même un continent des plus riches au niveau de la Terre, et il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont là, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger tous les jours. La troisième question, c'est sur l'économie solidaire.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Le mouvement Emmaüs a toujours été un mouvement politique parce que tout simplement, ce n'est pas un mouvement qui vient pour gérer une situation de pauvreté et de misère. C'est un mouvement qui vient contester les causes de la misère. Et quand on conteste, on ne peut pas faire autrement que d'aller sur le terrain politique. Jamais le mouvement n'est sorti de cette logique-là. Et l'abbé Pierre le premier était le premier protestataire des mesures politiques et des politiques publiques qui n'étaient pas conformes à un minimum de justice sociale, à un minimum de reconnaissance des problèmes d'exclusion, etc. Bien sûr que le mouvement Emmaüs est sur le terrain politique. Il n'a jamais cessé de l'être.
Emmaüs International, il y a quelques années, a insisté pour que toutes ces associations d'Emmaüs qui sont dans les différents pays d'Europe se réunissent en une association Emmaüs Europe, non seulement pour avoir une solidarité de terrain, une action citoyenne, comme on l'a dit, mais aussi pour avoir un travail politique précisément au niveau des instances de l'Union européenne et peut-être un jour aussi du Conseil de l'Europe. Et c'était vraiment la raison principale pour la création d'Emmaüs Europe, qui est finalement la plus jeune des organisations, qui s'est créée en 2005. Julio nous a parlé donc de leur travail sur les migrants, et c'est un programme qui rejoint une des actions prioritaires d'Emmaüs International, pour laquelle Emmaüs International a publié en début d'année un livre qui s'appelle « Visa pour le monde », qui est traduit en 3 langues, et il y a un site internet qui lui est dédié, visapourlemondetoutattaché.org, donc avec énormément de témoignages de migrants, mais de différents pays et de différents continents, pour montrer que ça n'est pas seulement un problème qui touche nos pays européens ou occidentaux, mais on a des migrants d'Afrique en Afrique, des migrants d'Amérique en Amérique, et avec des témoignages qui démontent un certain nombre de clichés.
Donc c'est clair qu'aujourd'hui, la question des sans-papiers, c'est un problème très très important pour l'Europe. C'est clair qu'aujourd'hui, en Europe, les populations les plus en difficulté, les plus pauvres, c'est les gens qui arrivent sans-papiers. Mais c'est clair aussi qu'étant donné le vieillissement de la population européenne, le fait que les Européens qui sont ici ne veulent pas prendre en charge certains travaux qui sont tout à fait nécessaires pour le bon fonctionnement d'une société, c'est sûr qu'il y a un appel qui est fait de ces faits-là aux personnes qui viennent de l'extérieur. Donc c'est pour ça que Emmaüs Europe travaille beaucoup sur ce thème-là. Donc d'abord, on a contacté avant le 7 juin de l'année passée, c'est le jour où il y avait eu lieu les élections européennes. Donc on avait contacté tous les candidats à eurodéputés dans les 27 pays de l'Union pour les interpeller sur cette question d'immigration et sur le mal logement surtout. Donc il y en a qui ont répondu, évidemment, il y en a qui n'ont pas répondu. Et une fois que le Parlement a été formé avec la nouvelle Commission européenne, on a contacté surtout les eurodéputés qui s'occupent des thèmes sociaux à l'Europe. On a parlé plusieurs fois avec plusieurs d'entre eux. Ils ont été aussi invités à notre assemblée régionale en octobre de l'année passée. On a passé avec les compagnons, avec tous les groupes qui étaient là d'Emmaüs au Parlement européen. Et à ce moment-là, on a rencontré plusieurs europarlementaires pour parler de cette question. Je parlerai juste de 2 lois. Donc les lois retour qui a été votée par le Parlement en 2008, au niveau des associations comme Emmaüs, on l'appelle la loi de la honte. Parce que c'est une loi qui, dans le bon sens, si vous voulez, on a voulu unifier des critères au niveau de l'immigration par rapport à l'Europe. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, les votes de cette loi, ce que nous on constate au niveau d'Emmaüs, c'est que cette loi seulement a servi à que les pays qui avaient des dispositions nationales plus favorables, disons, à l'immigration que d'autres, grâce à cette loi, ils ont durci les positions, et c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la France, pour arriver aux pays qui avaient des lois les plus dures. Et une deuxième question, c'est que d'ici quelques semaines, voire un mois ou deux, il y aura une nouvelle loi sur les droits d'asile qui va sortir au niveau de l'Union. On y travaille beaucoup au niveau d'Emmaüs Europe, on pense faire des amendements à cette loi, et pour ça on a déjà contacté tous les eurodéputés qui sont concernés par cette loi pour voir si eux, ils seraient d'accord de porter nos amendements à cette loi au niveau du Parlement européen.
Quel est votre sentiment sur les premières réponses apportées par ces eurodéputés? Est-ce que vous sentez que ça va être soutenu, qu'il va y avoir des amendements Emmaüs, entre guillemets?
Non, évidemment, ce n'est pas une question facile. Et donc, je dois dire d'abord qu'on a touché tous les partis politiques au niveau de l'Union européenne, qu'on a pratiquement reçu des réponses aussi de tous les partis. Et je pense que ça va être tenu en compte. Donc, au moins, ça va faire réfléchir les personnes. Pour les populations les plus défavorisées en Europe, c'est important.
Ce combat qui est mené au niveau de l'Europe, il faut qu'on le mène aussi au niveau de la France. Parce que vous savez qu'il y a une quinzaine de jours, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi issu du ministère de l'Immigration qui vise à la transposition de la fameuse directive retour, dite directive de la honte, dont parlait Irudio à l'instant. Or, ce texte qui va être présenté au Parlement français crée la double peine. Celle contre laquelle M. Sarkozy s'est érigé à une époque, pour un autre sujet, il l'a rétabli dans ce texte, puisque non seulement on pourra expulser, mais en plus on pourra bannir, c'est-à-dire interdire aux personnes expulsées de pouvoir revenir pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et en plus de cela, dans ce texte, on va donner ce pouvoir à l'administration, sans contrôle du juge, un véritable recul des principes démocratiques. Donc on est là dans un dispositif, comment dire, de stigmatisation de l'étranger, renforcé pour des raisons qui vraisemblablement ont des connotations politiques assez désagréables, mais c'est très dangereux et c'est surtout très grave sur la question de l'opinion publique. Il se trouve que l'opinion publique aujourd'hui, et ça c'est plutôt satisfaisant, est de moins en moins favorable à ces mesures répressives à l'encontre des étrangers. Et ce sur quoi il faut que nous agissions en France et en lien avec Emmaüs Europe, c'est précisément d'essayer de faire changer le regard que les gens, que les populations, que l'opinion publique portent sur l'étranger, sur la manière dont on l'accueille, sur la manière dont il est expulsé souvent, etc. Il reste une dernière chose qui me semble très importante, c'est que dans les groupes Emmaüs, on fait ce qu'on appelle de l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux personnes si elles ont la bonne couleur de peau, si elles ont la bonne religion, si elles ont le bon langage ou si elles ont les bons papiers. On les accueille parce qu'elles sont à la rue. C'est un principe et ce principe pour nous est intangible, on n'en changera pas. Mais quand des personnes sont accueillies dans les communautés et que par hasard, elles sont par ailleurs sans papier, ce qui est un fait, on est dans les communautés dans une situation d'intégration remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui vont quelquefois rester 1 an, 2 ans, 3 ans, quelquefois plus dans les communautés, apprennent le français, apprennent la manière de vivre ensemble, apprennent à travailler, s'intègrent et en fait ont en quelque sorte tout le processus d'intégration que l'on attend a priori des personnes étrangères, dire, on leur livre ça en quelque sorte, comme ça, sur un plateau, sans que ça coûte rien à l'État, je crois qu'on pourrait plutôt remercier les groupes comme Emmaüs de faire ce travail d'intégration plutôt que de stigmatiser l'étranger et de chercher en permanence à les écarter, les pourchasser, voire parfois dans les communautés venir les chercher pour les expulser.
Ah bah oui, d'autant plus que les lois actuelles vous mettent hors la loi à chaque fois que vous accueillez un sans-papier finalement.
La loi actuelle nous met hors la loi et nous le revendiquons pleinement. Nous sommes dans l'illégalité, mais quand une loi est inhumaine, on ne l'applique pas. Point à la ligne.
Je pense que ce qui est le plus difficile, le plus vraiment difficile et important, c'est pour nous de se mettre dans la peau de l'autre, se mettre dans la situation de l'autre, de celui qui arrive. Et c'est ça que je souhaite à nos eurodéputés nationaux, europarlementaires, qu'ils puissent vraiment se mettre avec la tête, avec son corps, dans l'espace de l'autre, dans les questions de l'autre, et qu'à ce moment-là, il soit capable de faire des lois justes où on n'a pas des personnes qui soient laissées pour compte de quelle nationalité ou quelle couleur qu'il soit. Quoi.
Est-ce que justement les lois des différents pays européens, donc chacun chez soi, et puis les lois européennes, ne stigmatiseraient pas un petit peu la pauvreté en la criminalisant?
Oui, c'est sûr, oui. On a toujours peur de l'autre, surtout quand il est défavorisé au départ et on tend, comme vous dites, à criminaliser. Mais il faut se rendre compte qu'au niveau, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau national ou international, plus de aides on donne, plus de fonctions sociales, plus de travailleurs sociaux on a dans nos pays, c'est un travail qui est fait pour le futur, puisque non seulement il faut punir la personne qui a fait une mauvaise vie, qui a fait quelque chose de pas bien, mais il faut toujours de la prévention. Et la prévention, c'est empêcher que les personnes tournent mal dans le futur. Et pour ça, évidemment, il faut de l'argent. Il faut que dans nos communes, il faut que dans nos nations, il faut qu'au niveau de l'Europe, il y ait un budget suffisant au niveau social pour que tout le monde puisse trouver sa juste place. C'est pour le bien de tout le monde aussi. à la fin.
À la solidarité active, un programme politique, mais surtout le quotidien des membres d'Emmaüs. Dans les Vosges, à Rombervillers, Emmaüs ouvre son magasin les jeudis et samedis de 9h à midi et se charge de débarrasser gracieusement vos caves et greniers. Pour en savoir plus, référez-vous à la page info locale de notre site internet www.cocktailfm.com. Vous pouvez également retrouver ce magazine et le réécouter. Voilà, c'est tout pour ce Mac du samedi. Merci bien sûr à tous nos témoins de ce matin. D'autres informations locales sur Cocktail FM, c'est à 12h30. D'ici là, très bonne matinée avec un point sur l'information nationale et internationale dans un tout petit instant. À très bientôt et bon week-end.